Simone Veil. Cahier. Tome premier. Extrait. Il y a des choses qui ne sont cause d'aucune souffrance par elles-mêmes, mais font souffrir comme signe. Signe de quoi? D'un état de choses qui, par lui-même, ne fait souffrir que rarement, ou jamais, étant trop abstrait par lui-même pour constituer un malheur. Mais les signes en font souffrir, quoique non douloureux par eux-mêmes. Ainsi, la défaite et la vue d'un soldat allemand en uniforme. Ainsi la carte d'identité chez Renault. Si de tels signes sont fréquents chaque jour, il y a malheur. D'autres choses sont par elles-mêmes des causes de souffrance. Souffrance physique, en ce cas. Humiliation, c'est une souffrance physique. D'autres encore, à la fois par elles-mêmes et comme signe, humiliation. Ce sont les plus pénibles. Problème. La défaite, non ressentie comme souffrance à certains moments. Beau jour, beau paysage. Un homme avec un uniforme gris-vert n'est pas cause de souffrance. Exemple. Avant les hostilités, attaché militaire. La défaite s'étant produite, qu'un soldat allemand apparaisse dans le paysage et la souffrance naît. Douleur née du lien, de signe à signifier, entre deux choses non douloureuses, hors de ce lien. Or, cette douleur est sensible au corps, peut aller jusqu'aux larmes. En est-il de même pour la joie? Esthétique, fête, les ornements d'une fête, par exemple. Les arts rendent sensibles le temps et l'espace. Un coucher de soleil rend sensible le temps et l'espace. Sensible d'une certaine manière. Laquelle? Sentiment de réalité. Décrire la différence entre une belle chose, œuvre d'art, et le reste, en faisant complètement abstraction de la beauté. On trouverait ainsi quelque chose d'instructif. Le malheur se définit par la douleur physique, par la symbolique, par l'enchaînement des moments, l'écoulement de la durée. Morceler le temps, mal le plus grand qu'on puisse faire à un homme. Le beau est le seul critérium de valeur dans la vie humaine. Le seul qu'on puisse appliquer à tous les hommes, sans quoi il ne reste que le bien-être. Les conditions d'une vie pleine sont équivalentes pour tous les hommes, mais sous des formes, bien entendu, différentes. Beau. Enracinement. Pacte entre soi et ses propres conditions d'existence. Cercle du temps. Faire que le temps soit un cercle et non pas une ligne. Péché, divertissement, intoxication, licence. Le péché aussi peut se traduire en termes de temps. Exemple, licence, égale immédiat. Intoxication, suspension à l'avenir prochain, mais passive, désir indéfini, Danaïde. Le mal a deux formes, le péché et le malheur. Rapport entre le péché et le malheur des autres. Essentiel ou accidentel. Aime ton prochain comme toi-même. Un opiomane qui cherche à rendre tout son entourage opiomane. Le péché est l'illimité. Le subjectif, coordonner cela à ses caractères par rapport au temps. Les autres constituent une limite et une existence hors de nous. La seule, car la matière. Troisième dimension. Respect. Dans le péché et dans le malheur, ne perd-on pas la même chose, à savoir le monde? Comment alors les distinguer l'un de l'autre? Ne s'engendre-t-il pas l'un l'autre en un cycle réciproque? Si je crois que l'homme n'est pas à la merci des circonstances, j'agis sur autrui sans égard. Si je crois que l'homme est à la merci des circonstances, je me livre moi-même à elle. Ce qui entraîne, entre autres, la première conséquence, réciproquement d'ailleurs. Ces deux croyances conduisent au même état. Donc, une conduite juste implique une contradiction. Il n'est nullement vrai que le bien soit sans contradiction, que le mal seul soit contradictoire. La vertu serait plutôt, peut-être, moins logique que le péché. Même d'ailleurs, si je ne considère que moi. Science et travail. Ce qui sert de modèle à la science et à la technique occidentale, c'est le travail. Mais le travail non qualifié, la forme la plus élémentaire, la plus simple et la plus grossière de travail. La pensée humaine modèle toujours l'univers sur le rapport entre l'âme et le corps, mais choisit entre ces rapports. Je veux qu'une allumette soit ici et non là. Je la déplace. Devant le piano, je pense une mélodie, et presque en même temps je l'entends. Mes doigts ont frappé les touches sans même que je le sache. La première espèce d'action demande un apprentissage. La première, non. La science n'a retenu que la première. Principe de la science occidentale. Absence de hiérarchie. Le soufi, par exemple, et l'idiot, se trouvent dans la même nécessité de se lever et de marcher pour prendre une chaise et la mettre devant la table. C'est une nécessité que la science prend pour objet de ses investigations, et si loin qu'elle se développe, c'est toujours la même chose. Représentation de l'univers, mais non complète, car en certains cas, la matière, le corps étant matière, obéit au sage comme elle n'obéit pas à l'idiot. D'autre part, en certains cas, elle est belle. Le beau est absent de la représentation du monde fourni par la science, et pourtant, le savant la recherche. En Grèce, il y avait union entre le beau et la science. Mais en quoi consistait cette union? Bien et mal. Réalité. Est bien ce qui donne plus de réalité aux êtres et aux choses. Mal, ce qui le leur enlève. Cérémonie. Moi, qui suis tout l'univers, je suis pourtant une partie. Et les autres aussi sont des parties. Ils existent comme moi, autant, ni plus, ni moins. Que la vie soit analogue à une œuvre musicale parfaite ou à un poème, bien que les événements soient en partie à portée du dehors et sans rythme. Comment cela? C'est tout le problème. Faire du temps une image mobile de l'éternité. Car il ne l'est pas naturellement. Solitude. En quoi consiste le prix? Car on est en présence de la simple matière. Même le ciel, les étoiles, la lune, les arbres en fleurs. De choses de moindre prix peut-être qu'un esprit humain. Le prix en consiste dans la possibilité supérieure d'attention. Narcisse. N'est-ce pas à cela qu'aspirent les amants, à être un, à faire entrer en soi-même l'être aimé, à ce qu'il devienne soi-même? Or, Narcisse avait cela, et était encore plus malheureux, encore plus loin de ce qu'il aimait. Là était le paradoxe. Il aimait un corps sans âme, parce qu'on ne peut pas aimer sa propre âme. Ou peut-être faut-il que l'univers entier, le ciel, les étoiles, la mer, soit le corps correspondant. Ce n'est pas alors sa propre âme. Étoile et arbre fruitier en fleurs, la permanence complète et l'extrême fragilité donnent également le sentiment de l'éternité. La souffrance, le vide, est en de tels cas de mode d'existence des objets du désir. Qu'on écarte le voile des réalités et on verra qu'ils nous sont donnés ainsi. Quand on le voit, on souffre encore, mais on est heureux. Cet espace qui est à l'intérieur du cœur, c'est là qu'il demeure, maître de tout, souverain de tout, seigneur de tout. Il ne se grandit pas par de bonnes actions, ni ne se diminue par de mauvaises. Au-delà du bien et du mal, il faut l'interpréter sans doute comme la formule taoïste. Celui qui a la haute vertu n'a pas de vertu, et c'est ainsi qu'il a la vertu. Celui qui a une vertu ordinaire a de la vertu, et c'est ainsi qu'il n'a pas de vertu. On aime un époux, une épouse, etc. Toute chose pour soi. Idée capitale. Restreindre son amour au sujet pur et l'étendre à tout l'univers, c'est la même chose. C'est la même pensée que celle des stoïciens. J'emporte avec moi tout ce que je possède. Les choses précieuses, à juste titre, sont des métaxous, entre deux, intermédiaires. Changer le rapport physique entre soi et le monde, physique, est-ce le mot propre? Comme par l'apprentissage, l'ouvrier change le rapport physique entre soi et l'outil. Le marin entre soi et le bateau. Blessure, c'est le métier qui rentre dans le corps. Que toute souffrance fasse rentrer l'univers dans le corps. L'outil fait perdre un mode de sensibilité, le remplace par un autre. On ne sent pas sa fatigue, sa souffrance. On sent la fraise appuyer sur la pièce. Comment elle appuie? Tous les métiers reposent sur des transports de sensibilité. Levier. En se baissant, on sent qu'on lève. Habitude, habileté. Transport de la conscience dans un objet autre que le corps propre. Que cet objet soit l'univers, les saisons, le soleil, les étoiles. Le rapport entre le corps et l'outil change dans l'apprentissage. Il faut changer le rapport entre le corps et le monde. Changement dans la durée. On ne se détache pas, on change d'attachement. S'attacher à tout. Par chaque sentiment, en descendant, joindre l'Atman. Qui est ? Ce n'est pas moi qui suis là. C'est vrai, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui suis en ce point de l'espace. À travers chaque sensation, sentir l'univers. Qu'importe alors que ce soit plaisir ou douleur. Si on a la main serrée par un être aimé, revu après longtemps, qu'importe qu'il serre fort et fasse mal. Un degré de douleur où l'on perd le monde. Mais après, l'apaisement vient. Quand on le retrouve. Et si le paroxysme revient, l'apaisement revient ensuite aussi. Ce degré même, si on le sait, devient attente de l'apaisement, et par suite ne coupe pas le contact avec le monde. Ce contact est la joie. Rythme. Dans tout mode de vie, il y a un rythme à aimer. Toute vie, si artificielle soit-elle, est liée à la rotation diurne du ciel et aux saisons. Sans quoi, on mourrait. Par ce rythme, on est lié au soleil et aux étoiles. Les sentir à travers ce rythme, comme par un bâton d'aveugle. On ne choisit pas les sensations, mais on choisit, sous la condition d'un apprentissage, ce qu'on sent à travers elles. Large part de choix. Ainsi, par des apprentissages, on change le pouvoir qu'ont les sensations de nous modifier. Un enchevêtrement de dessin peut apparaître comme quelque chose de cauchemardeux en l'absence de toute signification, et autrement une fois ordonné en une signification. Connaissance du troisième genre égale lecture. L'espace et le temps, en un sens, ne sont que des pensées, et en même temps, ce qui enchaîne sans libération possible l'être pensant. Libération effective à l'égard du corps. Le bâton de l'aveugle en fournit la clé. De là la formule de Spinoza, celui dont le corps. Lecture. Il ne nous est donné, en un sens, que des sensations. Et quoi que nous fassions, nous ne pouvons jamais, jamais penser autre chose, en un sens, que des sensations. Mais nous ne pouvons jamais penser les sensations. Nous lisons à travers elles. Que lisons-nous? Non pas n'importe quoi à notre gré. Non pas non plus quelque chose qui ne dépendrait en aucune manière de nous. Le monde est un texte à plusieurs significations. Et l'on passe d'une signification à une autre par un travail. Un travail où le corps a toujours part. Comme lorsqu'on apprend l'alphabet d'une langue étrangère. Cet alphabet doit rentrer dans la main à force de tracer les lettres. En dehors de cela, tout changement dans la manière de penser est illusoire. Le rapport du « je » et du monde. Je suis telle étoile, au sens où, quand j'écris, le porte-plume est un membre de mon corps. Et au sens où, quand j'appuie la fraise sur le métal, c'est à leur point de contact que mon existence a son siège. Le rapport du je et du monde. Je suis telle étoile, au sens où, quand j'écris, le porte-plume est un membre de mon corps, et au sens où, quand j'appuie la fraise sur le métal, c'est à leur point de contact que mon existence a son siège. Et au sens où, quand je regarde un tableau, et encore autrement. Mais le rapport de je et des autres hommes. Je suis celui qui voit ce cube sous cette perspective, mais aussi celui qui le voit sous cette autre, sous laquelle je ne le vois pas. Je suis celui qui lit les sensations selon telle loi, et celui qui lit selon telle autre loi. Aimer le prochain comme soi-même ne signifie pas aimer tous les êtres également. Car je n'aime pas également tous les modes d'existence de moi-même, ni ne jamais les faire souffrir, car je ne refuse pas de me faire souffrir moi-même, mais avoir avec chacun le rapport d'une manière de penser l'univers, à une autre manière de penser l'univers, et non à une partie de l'univers. Un homme à 10 pas de moi est quelque chose qui est séparé de moi par une distance, 10 pas, mais aussi une autre perspective sous laquelle apparaissent toutes choses. Le rapport entre moi et un autre homme ne peut jamais être analogue au rapport de l'aveugle et du bâton, et non plus au rapport inverse. C'est ainsi que l'esclavage est contraire à la nature et à la raison. La lecture des sensations, ce que nous lisons à travers elles, est aussi imposée. Et là aussi, nous avons dessus un pouvoir, non immédiat, par le travail et l'habitude où le corps intervient. Penser Dieu, aimer Dieu, ce n'est pas autre chose qu'une certaine manière de penser le monde. La perte du contact avec la réalité, c'est le mal, c'est la tristesse. Il y a des situations qui causent cette perte, privation, douleur. Le remède est de prendre le besoin même comme intermédiaire pour atteindre la réalité. La présence du mort est imaginaire, mais son absence est bien réelle. Elle est désormais sa manière d'apparaître. La vie humaine est une composition sur plusieurs plans. Imiter l'abandon au temps des choses inertes. L'action qui sort d'une situation qui l'exprime. Comment la définir? Belle action. L'action qui termine suspend le dialogue indéfini des déséquilibres qui se répondent, établit l'équilibre unique correspondant à la situation donnée. L'action où la personne n'apparaît pas. Que tous les aspects d'une situation soient conçus, que la pensée se porte sur tous également avec une attention égale, comme la lumière du soleil. Puis qu'un équilibre se fasse, puis que l'attention se porte surtout sur l'aspect choisi pour que l'action se fasse. Autrui, percevoir chaque être humain, image de soi-même, comme une prison où habite un prisonnier, avec tout l'univers autour. Ainsi, sans contrôle sur l'imagination, on peut faire n'importe quoi. Comment, en vue de quoi, en vertu de quoi la contrôler? La faute n'est pas dans l'action. C'est une faute de lecture. Prendre conscience qu'on lit, déjà très difficile. Viser à lire bien, qu'est-ce à dire? Lire de telle manière que ce qui est désirable semble bien. Lire de telle manière que ce qui est bien semble désirable. Quand on s'élève à la notion de lecture, apparaît l'arbitraire. Là, alors. Le sentiment. Rapport entre le monde et la pensée. Il vient du monde, immédiatement, avec les sensations, comme elles, mais varie en fonction des déplacements de l'énergie dans l'être humain. Que cette énergie devienne un moyen d'exploration du monde, un bâton d'aveugle. La chaîne dans la caverne est le temps. Regardez une seule chose à la fois. Dans telle situation, on agit d'une manière dont ensuite on a honte. On se promet de ne pas recommencer. Qu'une situation semblable revienne, on ne reconnaît pas la ressemblance, car elle ne ressemble pas au souvenir de l'autre. Elle ressemble à l'autre. Après seulement, quel remède? D'abord de savoir comment la situation et le souvenir ou l'attente de la situation diffèrent. Lecture. La droite est ce que je trace en pensant la droite pure. La vérité est ce que je pense, ce que je lis dans les apparences en désirant la vérité. Ce désir, c'est que votre volonté soit faite et non la mienne. On ne veut pas changer ce qui est. Ne pas lire ce qu'on craint ou ce qu'on désire. Le beau, ce qu'on ne veut pas changer. Le bien, ne pas vouloir changer en fait. Non intervention. Le vrai, ne pas vouloir changer dans son esprit par l'illusion. Le bien, ne pas vouloir changer quoi? Ma place, mon importance dans le monde, limitée par mon corps et par l'existence d'autres esprits, mes égaux. Ne pas vouloir changer. Désir. Toujours arrêter ou hâter le cours du temps. Musique. Tant qu'on ne veut ni arrêter ni hâter. Lire dans les apparences quelque chose qu'un autre, situé autrement, ému autrement, peut lire par le même effort. Devant un être humain, quel qu'il soit, ne le désirer ni immortel, ni mort. faire de la première lecture un bâton d'aveugle. La lecture vraie, seconde lecture. Attendre ce qu'on fera, comment on se comportera, comme une chose instructive sur soi-même. Texte. Modification du texte. Notre corps. Il faut étudier de très près la lecture et surtout bien distinguer entre la lecture d'une situation présente et le souvenir, aussi l'attente. Lire dans les apparences, la notion de lecture. Bâtir en fonction de ce qu'on veut faire lire. Chercher des exemples de nécessité vitale de se mentir. Nécessité vitale de lire d'une certaine manière. Lire dans les étoiles qu'on est mortel. Voir chaque être humain comme une bouteille où il y a un génie. Les bouteilles se déplacent et parfois se rencontrent, se heurtent par les mouvements incohérents imprimés du dedans. Mes actions augmentent ou diminuent l'épaisseur du voile qui me sépare de l'univers et des autres, comme les gestes par lesquels je manie un outil. Traduire en acte, aussitôt si l'occasion s'en présente, le plus souvent possible, mais avec des limites, les lueurs qui viennent à l'esprit de l'existence réelle du monde et des hommes. Ces actions, maniement du bâton d'aveugle. S'abstenir si possible de toute action dans les moments où un voile épais entoure la bouteille. Attendre un moment meilleur, comme pour regarder une statue grecque. Autre péché. Puiser l'énergie à une source base, à laquelle on conforme ses pensées. Espèce parente, lâcheté devant le temps. Souffrir que le temps s'écoule sans que la résolution morde dans un moment. Mauvaise relation avec le temps. Remède. Accorder l'existence réelle aux pensées réelles. Maintenir dans les limites de l'imagination, vide, les pensées imaginaires. Il s'agit donc toujours de lecture. Et de deux pensées réelles. Les regarder ensemble. Les peser sur une balance juste, puis agir. Balance intérieure. Par quel art la rend-on juste? Acte propre à rendre juste la balance intérieure. Se mettre autant qu'on peut dans une situation où elle soit juste. L'esprit en son degré le plus haut imite en quelque sorte la matière, absent de ses pensées et de ses œuvres. Mystère suprême. La pureté dans l'action et le temps. Le moment. Enfoncer la pointe de l'action dans le cours du temps. Ne pas détourner le regard de la pensée, bien que le risque qu'on se soit trompé, soit infini. Si, contemplant la chose qui paraît bonne et contemplant non moins fixement le risque infini, l'action se fait, l'action n'est-elle pas bonne? Accepter ce qu'on est, à un moment donné, comme un fait, même la honte. L'arrachement de l'âme, qui cesse de penser à quelque chose, est le modèle du bien. Seconde d'arrêt, d'où tout le reste tire sa valeur, dans la musique, la danse, etc. Image de. Au contraire, rythme ininterrompu dans le travail d'usine. Place des silences dans la musique. Il faut qu'il soit au centre de quelque chose. Comment monte-t-on vers eux, redescend-on à partir d'eux? Mais on redescend avec des inflexions qui suggèrent une présence du haut dans le bas. Passage de Mozart et Bach. provoquer une attente, attendre un son qui comblera, et que ce son soit un silence, que ce qui suit évoque un être à la fois comblé et privé. Cela comment? Imitation, mais avec des sons purs et définis en petit nombre, de la voix humaine lorsqu'elle crie vers quelque chose, etc. Mais pourtant, il faut évoquer des mouvements de l'âme qui sont toujours muets, au moins extérieurement. L'univers doit être à plusieurs lectures, comme les œuvres d'art. Sans quoi, comment ferait-on une œuvre d'art? Quand quelque chose semble impossible à obtenir, quelque effort que l'on fasse, cela indique une limite infranchissable à ce niveau, et la nécessité d'un changement de niveau, d'une rupture de plafond. Ainsi, s'épuiser en effort à ce niveau dégrade. Il vaut mieux accepter la limite, la contempler et en savourer toute l'amertume. Réellement attaché par des chaînes irréelles, le temps irréel voile toute chose et nous-mêmes d'irréalité. Diriger d'en haut l'énergie des mobiles bas, façonner les mobiles bas pour qu'ils portent où on veut aller. Joie dans le travail, le désir de la douce nourriture. Il ne doit pas y en avoir d'une autre espèce. Que les pauvres soient pauvres au moins. Joie immédiate, joie de participation au monde. Nulle poésie concernant le peuple n'est authentique si la fatigue n'y est pas et la faim et la soif issues de la fatigue. Leur dire « le Christ a été fatigué ». Celui qui doit travailler tous les jours sent dans son corps que le temps est inexorable. Travailler, éprouver le temps et l'espace. Titre. Le travail comme exercice spirituel. Le travail comme expérience mystique. Le travail comme poésie. Envoyer les mauvaises pensées au fond de soi, c'est en ôter le mal. Les envoyer là, où sont les désirs qui sont réalité? Ce qu'on ne fait pas, ce qu'on ne ferait jamais, cela vous dessine votre figure. Nous sommes faits de quantités d'impossibilités dont beaucoup ne sont pas éternelles. D'une manière générale, une forme du bien consiste dans la domination des parties supérieures de l'être sur les inférieures. Un bien meilleur consiste dans leur superposition équilibrée. Le désir est l'illimité. Il y a toujours de l'illimité dans le désir. Conquérir seulement le globe terrestre, vivre seulement 100 ans, toucher seulement 40% de profit sur de l'argent qu'on a placé. Le désir est illimité par nature. Et cela est contre nature, parce que l'infini n'est pas à sa place au niveau du désir. La raison, celle du deuxième genre, ne peut jamais procurer cet équilibre, mais seulement le redressement de la balance intérieure par des arrêts suffisamment longs et fréquents, mais non pas trop. Il faut que je sois d'accord avec autrui et avec moi passé, moi à venir. Cet accord est la réalité. Désir limité d'avance par la fatigue. Accrocher le désir à ce qui ne se fatigue pas. Ce qui ne se fatigue pas, c'est d'abord le moteur immobile. Le rythme accroît la longueur de l'effort, recule la fatigue. À la limite, pourrait la supprimer. Source d'énergie physique. Comment? Mais d'abord, par quoi se définit le rythme? Il ne se définit pas par la régularité. Le tic-tac d'une horloge n'a pas de rythme. Il se définit par les arrêts. Un grand coureur semble courir lentement, à cause de ses arrêts. Équilibre comme instant, comme limite entre deux déséquilibres. Utiliser dans l'activité du corps au maximum la pesanteur et les phénomènes pendulaires. D'une manière générale, diriger simplement les forces, qui sont toutes pendulaires, car toujours les ruptures d'équilibre se compensent. Les utiliser pour un mouvement continu. Transformation du mouvement circulaire en mouvement droit. Et maintenir la pensée dans une sorte de vide, d'attention pure. Renoncement. Renoncer aux biens matériels. Mais ne sont-ils pas certains les conditions de certains biens de l'esprit? Pense-t-on de la même manière quand on a faim, qu'on est épuisé, qu'on est humilié et sans considération? Il faut donc renoncer aussi à ces biens de l'esprit. Que reste-t-il? Quand on a renoncé à tout ce qui dépend de l'extérieur, rien peut-être? C'est là vraiment alors renoncer à soi-même. Toujours voir les petites choses comme une préfiguration des grandes. On évite ainsi et la négligence et la minutie. Non seulement je pense l'univers qui m'écrase, mais je l'aime. Renoncer à tout ce qui n'est pas la grâce et ne pas désirer la grâce. Accepter un vide en soi-même, cela est surnaturel. Où trouver l'énergie pour un acte sans contrepartie? L'énergie doit venir d'ailleurs. Non pas comprendre des choses nouvelles, mais parvenir, à force de patience, d'efforts et de méthodes, à comprendre les vérités évidentes avec tout soi-même. Alors la source d'énergie ne peut être que le pain surnaturel. Il en faut tous les jours. Ce sentiment d'impossibilité, c'est le sentiment du vide. Le contempler longtemps avec acceptation, c'est ouvrir passage à la grâce.